Marie-Hélène Souchard, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Jean-Noël Roguet, bonjour.
Bonjour à tous.
Tous les deux, vous représentez le groupe local SOS, les écologistes. SOS, pour qu'on soit bien d'accord, pour ceux qui auraient raté le premier épisode, c'est...
Sud-Ouest Sarthe.
Exactement. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre sollicitation. Dans ce contexte, après orage, accompagné de vents violents, un épisode qui s'est déroulé le 15 juillet 2026, tout le monde retiendra ça. On se dira, mais qu'est-ce que vous avez fait le jour-là? Où étiez-vous ce jour-là où l'impensable est arrivé jusqu'à nos portes? Parce que pour certains, c'est des choses qui arrivent dans les Caraïbes, aux États-Unis. Mais le fait que ça se produise ici, sur le territoire, dans son environnement, est-ce que ça change la donne selon vous?
Alors, ça change la donne, oui, parce que c'est impressionnant. C'est déplorable que ça arrive. On ne veut toujours pas que ça arrive chez soi. Ce qui est déplorable, c'est qu'on savait que ça pouvait arriver. On sait que ça peut encore arriver, encore une fois. Et on sait et on ne fait rien. Et c'est ça, moi, qui m'a fait le plus mal au ventre. C'est, bien sûr, j'avais peur, parce que comme tout le monde... je suis un être humain et donc je tremble. Et j'ai tremblé quand j'ai vu les arbres, tout bouger autour de chez moi et se casser. Mais un sentiment de colère profonde, de colère de fond, parce qu'on sait et on fait rien. Et donc du coup, c'est ça qui est le plus difficile à se dire, ça peut encore arriver. Et donc du coup, maintenant, il faut prendre les mesures, quoi. Être actif.
Jean-Noël Roguet.
Oui, ça a été à peu près la même chose. Hein. C'est un traumatisme forcément qu'on a tous vécu. Moi, je revenais du Lude. J'étais sur la route quand je voyais l'orage qui commençait à se préparer. Il va de soi que je ne m'attendais pas du tout à ce qui a pu se passer. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez moi avant que tout ça n'éclate. Et puis après, c'est effectivement... incroyable. On a vécu un événement météorologique d'une rare violence. Les résultats qu'on a pu constater derrière sont effectivement à la hauteur de la violence de l'événement. Et après, oui, effectivement, il y a tout ce qui va autour et toute l'analyse qu'on peut en faire. Ça fait longtemps que nous, écologistes, on se bagarre pour expliquer que le réchauffement climatique, parce que l'orage, il est bien le résultat de la canicule qu'on a pu avoir avant, la canicule qui était au moins aussi violente que l'orage, c'est-à-dire que les deux sont proportionnés. Et cette canicule, tout le monde sait, depuis longtemps, en tout cas toutes les personnes qui sont un tout petit peu raisonnables, qu'elle allait avoir ce genre de conséquences derrière. Donc il y a forcément de la colère par rapport à ça. Et maintenant, il y a un gros espoir, c'est d'espérer que... qu'au moins on soit capable de tirer les leçons de ce qui vient de se passer et qu'on soit capable de changer les perspectives, les approches, notamment au niveau du climat, pour pouvoir essayer d'éviter que ça ne se reproduise.
Alors, est-ce que vous avez fait le débriefing autour de vous et au niveau du groupe local SOS les écologistes, est-ce que vous avez idée de ce qui est la tendance, ce que les gens ont compris? Est-ce que tout le monde a pris la mesure déjà?
Moi, je ne sais pas si tout le monde a pris la mesure. J'ai, moi, par rapport à mon équipe municipale, on a fait un débriefing parce qu'on en avait besoin. On l'a tous réclamé. On avait plaisir à se retrouver pour pouvoir échanger sur ce vécu. Et moi, j'ai eu la surprise d'entendre parmi mon équipe, l'équipe où j'évolue, un élu... Prendre conscience. Mon Dieu, il a pris conscience. Enfin, il a pris confiance. Conscience que ça pouvait arriver, que ça pouvait arriver plus fort. Alors je me suis dit, bon, si au moins un des 23 élus de Bazouges-Crest-sur-Loire a pris conscience, bon, allez, on a fait un pas. Mais c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant, quoi.
Et donc,
en tout cas, nous, chez nous, on a mis en place une cellule, une organisation pour une cellule de crise avec des moyens derrière pour être au plus proche des citoyens. Parce que là, on a aussi eu le sentiment qu'on était un petit peu voilà, on s'est tous bougés, et ça, c'est, là, c'est incroyable, parce qu'il y a une grande solidarité dans ces mouvements-là, dans ces événements-là. Après, derrière, mieux s'organiser pour être plus efficace encore.
Oui, parce qu'on a parlé d'imprévisibilité, donc ça veut dire que vous-même, élu, vous êtes élu à Bazouges-Crée-sur-Loire, comme vous l'avez dit, et Jean-Noël, vous êtes également élu à La Flèche, vous n'aviez pas d'infos, plus d'infos que nous. Donc on était quasiment, ou alors certainement, logés à la même enseigne.
Bah, de toute façon, les services météo ont du mal à prévoir exactement le lieu où un orage va éclater. Ils sont capables de déterminer une zone, mais après, l'endroit où ça va vraiment tomber, c'est compliqué. Même sur la ville de La Flèche, on s'est rendu compte que d'un quartier à un autre, il y a des dégâts qui sont beaucoup plus importants sans que ça soit cohérent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la logique en fait qui fait que à l'intérieur d'un orage, ça va être particulièrement violent à tel endroit et moins violent à tel autre. Et sur les communes aux alentours, bah, effectivement, il y a des endroits où rien ne s'est passé.
Tout à fait.
Alors qu'on n'est qu'à 2-3 km.
C'est ça. Dans le centre de Bazouges, il n'y a pratiquement rien eu. Et puis en campagne, entre les deux, il y en a eu. Et puis après, derrière, on se retrouve avec des coupures d'électricité, avec plus de réseau, donc plus de moyens de communication. Et donc, du coup, on est dans une phase démunie. Et là, c'est la volonté, la chaleur humaine de chacun, ou le dévouement de chacun, qui fait qu'on peut arriver à surmonter ça ensemble. Et c'est là qu'on voit la solidarité qui se bouge, quoi. Nous, on a déjà sorti les tronçonneuses, et puis heureusement, parce que pour pouvoir aller aider les autres, il fallait d'abord commencer à dégager chez soi pour pouvoir aller ailleurs.
Vous aviez pas eu peur ?
Moi, j'avais un conjoint qui voulait sortir, et donc je l'ai retenu pour pas qu'il sorte, parce que voilà, moi, j'ai vraiment eu peur. J'ai vécu d'autres orages ailleurs, et oui, ça a relevé beaucoup, 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 beaucoup d'émotions.
La peur, c'est de la prudence, c'est pas de la peur pour de la peur, c'est ça ?
Il faut savoir agir quand il faut. Et pas aller au danger, ça sert à rien. Mais après, derrière, après, il faut y aller, parce qu'il y a des gens qui sont démunis, qui n'ont pas les capacités de pouvoir se dégager. Voilà. Et puis devant cette apocalypse, il faut être solidaire, il faut y aller tous, quoi. Quelles que soient nos opinions politiques, là, à ce moment-là.
Oh bah oui.
La nature nous ramène en fait à ce qu'on est, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire que l'homme à la hauteur de sa personne par rapport à un orage, on n'est rien du tout. La puissance de la nature, elle dépasse de tout, très largement, ce qu'on est capable, nous, à titre individuel, de pouvoir faire. Voilà, donc ça sert à rien, effectivement, de se mettre en danger inutilement. Il faut attendre que ça passe, et puis voilà. Et puis après, effectivement, il y a tout le travail de reconstruction, de solidarité, d'accueil, de partage. Mais par rapport à la nature, bon, bah, espérons qu'à un moment ou à un autre, les gens auront conscience qu'on ne domine pas et on ne fait pas faire à la nature ce qu'elle n'a pas envie de faire, puis c'est tout.
Non, puis elle a le droit de crier, la nature. Mmh. Elle a crié parce qu'on lui fait subir, c'est nous hein, qui lui faisons subir les canicules, c'est l'être humain qui est à la base de tout ça. Et donc, comme disait Jean-Noël, l'orage est la conséquence de la canicule. Et donc, du coup, quelque part, elle s'est révoltée et elle a le droit de se révolter. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont entendre cette révolte.
Et dire qu'on était sur le sujet de la climatisation, je ne sais pas si ça vous fait écho, au sortir de cette séquence de température extrême, c'était le sujet qui s'était imposé dans les médias.
La climatisation, oui, celle que tout le monde veut mettre en place et celle que tout le monde dit, enfin tout le monde, non. Certains, les partis politiques d'extrême droite prônent, c'est pas la solution, quoi. C'est pas la climatisation qui va régler la problématique des canicules. Au contraire, elle va faire que de l'accentuer, parce que vous prenez... tout simplement, de toute façon, pour comprendre, vous prenez de l'air chaud de l'air chaud de votre appartement, vous le remettez à l'extérieur et vous accentuez la chaleur extérieure. Donc on continue. Donc non, il faut la climatisation, c'est pas la solution. La solution, c'est de prendre le problème à la base et d'agir autrement.
Agir autrement. prendre le problème à la base, vient de dire Marilène Souchard, Jean-Noël Roguet, le travail qui nous attend, qui vous attend, parce que vous êtes le groupe bien dénommé, hein, le groupe local SOS. Mmh. Vous voyez, on peut avoir deux lectures de ce SOS. Je sais que c'est Sud-Ouest Sarthe, mais SOS, bah... au secours, quoi.
Mais ça nous a fait rire aussi. Hein. C'est un petit jeu de mots sur lequel, bien évidemment, on a surfé dès le départ, parce qu'on avait bien conscience qu'il y avait aussi
ça.
Cette notion-là. Wow. Mais bien évidemment, bien évidemment. Alors, pour revenir sur l'histoire de la climatisation, j'en ai marre d'entendre des Yaka Faucon. Yaka mettre la clim partout, Faucon mettre en place un plan, et puis on se rend compte tout d'un coup, en tout cas lorsqu'on parle du Rassemblement National, que quand on fait le compte, on n'est pas capable de le faire, puisqu'on arrive à un chiffre de 200 milliards. Bon, alors on va le diviser par 7 pour pouvoir faire en sorte que ça puisse rentrer dans les créneaux financiers. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est de savoir si la climatisation peut, à elle toute seule, répondre aux difficultés qu'on rencontre en temps de canicule. Bien évidemment non. Alors qu'on mette de la climatisation dans des endroits où il y a des personnes fragiles, dans des garderies, des hôpitaux, des EHPAD, c'est évident, ça. Oui, bien évidemment. Et ça aurait dû être fait, déjà. Bon, ça n'a pas été fait. Maintenant, il y a aussi d'autres logiques qui sont des logiques de bon sens. Moi, lorsque l'on parle d'écologie, je dis, mais je suis pas quelqu'un qui fonctionne sur une théorie pure. Je travaille sur du bon sens. Si on s'intéresse, par exemple, à cette histoire de clim, toutes les clims, alors il y a ce que disait Marilène avec le rejet de l'air chaud, mais si on s'y intéresse de manière plus en amont, toutes les clims fonctionnent avec de l'électricité. Si on met en place davantage de clim, il faut davantage d'électricité. Bon, l'électricité en France, aujourd'hui, elle vient d'où ? Elle vient à 80% des centrales nucléaires. Bon, les centrales nucléaires, ok, elles ont un petit côté avantageux qui est qu'elles sont décarbonées. Donc ça ne fait pas de rejet de CO2 dans l'atmosphère, ça c'est le côté positif, sauf que les centrales nucléaires, pour pouvoir faire fonctionner les réacteurs, ont besoin d'eau. Elles sont installées toutes près de fleuves ou près de grandes rivières pour pouvoir utiliser l'eau qui va permettre de refroidir le réacteur et il va y avoir une bonne part du rejet qui va se faire dans l'atmosphère, c'est ce qu'on voit avec ces fameux nuages hein, dans les cheminées des centrales nucléaires, mais il y a aussi une partie de l'eau qui est rejetée en rivière. Or, si on a des rivières où, avec la canicule, le niveau de l'eau baisse, comment on fait pour pouvoir refroidir les réacteurs ? On ne fait pas. Donc du coup, aujourd'hui, on a eu 6 ou 7 centrales nucléaires qui ont été arrêtées ou ralenties, et on se retrouve donc avec l'histoire du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus d'électricité, mais on a des centrales nucléaires qui sont bloquées par la canicule parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour pouvoir derrière faire fonctionner la centrale nucléaire. Si on va jusqu'au bout de la logique, on va même rejeter de l'eau chaude dans des écosystèmes qui, à un moment ou à un autre, vont être perturbés. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il y a une réglementation et qui fait que les centrales nucléaires sont limitées. Ça veut dire qu'on se retrouve avec une question qui est toute bête. Comment on produit de l'électricité en quantité suffisante pour pouvoir alimenter un plan de climatisation si les centrales nucléaires ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a plus suffisamment d'eau à cause de la canicule ? Et bien à ce moment-là, on réfléchit au solaire, et à ce moment-là, on réfléchit à l'éolien, et à ce moment-là, on réfléchit au géothermique, et on réfléchit aux centrales marémotrices, et on réfléchit à l'hydroélectricité, des micro-centrales sur des petits ruisseaux, etc. Voilà, ça c'est tout simplement du bon sens. C'est pas une question d'être écologiste, c'est une question de se dire, on prend le problème, on regarde, et puis on arrête de dire, il n'y a qu'à Faucon. Et on met les choses dans l'ordre, et on essaye de repenser notre mode de fonctionnement en étant simplement un tout petit peu logique. Voilà, c'est tout.
Être logique, c'est aussi ce qui doit être au cœur de nos préoccupations de tous les jours, parce que, comme vous le disiez hors antenne, c'est tout le monde qui est impacté, un peu importe notre couleur politique, nos convictions philosophiques, etc. Quand la nature est en colère, comme vous disiez, je ne sais pas si le mot que vous avez utilisé, Marilyn, c'est tout le monde qui est logé à la même enseigne. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est temps maintenant, d'être dans une sorte de temps d'éducation populaire écologique sans que ça soit un gros mot, parce qu'on a entendu des choses. Écologie punitive, vous seriez, pour certains d'entre vous, des tenants de l'écologie punitive, etc., etc. Et là, vous nous avez dit, c'est la nature qui était en colère, c'est la nature qui punit tout le monde, là.
Ah oui, on nous dit qu'on est des
éco-terroristes.
On n'est pas tous logés, je vous entendais, on n'est pas tous logés à la même enseigne, parce que il y a des personnes qui ont les moyens de pouvoir se protéger mieux, mais il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et donc, du coup, ceux-là, il ne faut pas les oublier, quoi.
Puis on pourrait parler du logement, d'ailleurs, c'est aussi, ça. À propos, ouais, de la canicule. Voilà. Je pense que Marie-Hélène va pouvoir nous en dire
plus. Les logements, eh bien, commençons déjà par mettre plus de la moitié des maisons n'ont pas de volets. Donc, tout simplement, un volet pour arrêter le soleil de pénétrer plus fort dans le logement, quoi.
Et ça, c'est du bon sens. Faisait avant.
Voilà. On faisait une maison, on mettait des volets, quoi. Au jour d'aujourd'hui, on met plus de volets, on met plus de toit. Donc, oui, mais ça vous fait sourire, mais en attendant, c'est quand même bien la réalité.
Comment ça, on met plus de toit?
On met des toits plats. Ah oui, résultat des courses, quand il pleut et qu'on a un orage, on a le droit à une piscine sur le toit. Et puis après ça, derrière, on a le droit aux infiltrations qui vont avec.
Ouais, je connais le sujet. Bon, je préfère me taire là-dessus, je connais le sujet.
Oui, il y a des gens qui ont du vécu derrière ça. Mais pour revenir
au logement et au volet,
protégeons les logements, isolons les logements. J'ai encore vu, là, dernièrement, il y a un projet d'un hôpital qui se fait sans volet, bien sûr, ou des petits stores, encore, peut-être, mais sans voir le côté important de l'isolation de ce bâtiment, quoi. Mais aujourd'hui, un ingénieur, quand il met quelque chose en place, un bâtiment public, eh ben, ça doit être la priorité. De mettre en place ça. On installe, on fait du bitume partout, on a des cours d'école qui sont entièrement bitumés, il n'y a pas un brin d'ombre, il n'y a pas un brin d'arbre, mettons des arbres dans les cours des écoles. La meilleure clim, c'est l'arbre. C'est tout ça. Alors évidemment, là en plus, on en a perdu un bon paquet sur la flèche. Mais c'est ça. Et donc du coup, plantons des arbres, mais réellement des arbres, des haies, pour freiner tout ça, quoi. Pour freiner ce vent qui a accompagné. Enfin, c'est que du bon sens. On supprime tout ce qui empêche de ralentir ce vent, tout ce qui empêche de freiner le soleil qui rentre dans les bâtiments. Donc, des volets, isolons. Donnons les moyens à ces personnes pour isoler leur logement. Et puis, quand on construit quelque chose, on le construit avec des matériaux qui sont isolants, en utilisant les matériaux adéquats, mais pas à aller au moindre coût, parce qu'il faut bâtir quelque chose, parce qu'il faut des logements, parce qu'il faut ceci. Pourquoi les gens précaires doivent subir encore plus par rapport à ceux qui ont les moyens de pouvoir faire des logements dits plus économiques ou isolés, quoi.